Ayant appelé Moïse sur la montagne, il lui demanda de dire au peuple : Vous avez vu de quelle manière je vous ai tiré de l'Égypte. Si vous voulez écouter ma voix et garder fidèlement mon alliance, vous serez mon peuple choisi entre tous. Moïse répéta au peuple les paroles du Seigneur. Et les Israélites étaient trop heureux, trop contents d'avoir un Dieu aussi puissant. Tout ce que voudra le Seigneur, nous le ferons. Purifiez-vous donc aujourd'hui et demain, reprit le Seigneur, car le troisième jour, je descendrai sur la montagne en présence d'Israël. C'est joli de donner au peuple lui-même le nom d'un de ses patriarches, Jacob, Israël. Le troisième jour, dès le matin, la montagne fut couverte d'une nuée épaisse, d'où sortaient des éclairs et des tonnerres. Le haut de la montagne était en feu. Vous voyez, quand les Grecs et les Romains avaient peur des éclairs et du tonnerre, eh bien, c'est, en effet, dans les lois de la nature, c'est quelque chose qui est effrayant. Ce bruit à travers le ciel, ces éclairs, cette électricité puissante, eh bien, pour le coup, ne nous moquerons jamais des causes des fausses religions. Ensuite, les fausses religions nous induisent en erreur à terme, mais il ne faut pas oublier que la crainte de Dieu est le début de la sagesse. De constater que Dieu existe et qu'il est le créateur et qu'il est le grand architecte, l'intelligence même, c'est vrai. Mais ensuite, qu'il reste dans les nuages ou qu'il soit cruel ou qu'il s'amuse avec nous comme avec des fourmis, c'est faux. Ou qu'il soit relativiste et qu'il nous dise rien, et que la morale, c'est nous qui la mettons, en pratique par notre propre imagination, c'est faux. Alors, bientôt le Seigneur fit entendre sa voix. Et alors, il donne les 10 commandements. Mais figurez-vous que le peuple l'a entendu. Il y a eu un miracle sonore extraordinaire. Tout le peuple a entendu la voix de Dieu. Qu'est-ce que c'est que cette voix de Dieu ? C'était tout simplement un miracle sonore, n'est-ce pas ? Dieu fait vibrer l'air et cette vibration fait une voix humaine, compréhensible. Et c'est très impressionnant, en effet. Mais voyez-vous, c'est pas difficile pour Dieu de faire une voix qui s'entend dans toute une plaine. La seule difficulté, c'est que le peuple sèche de peur. C'est épouvantable pour eux. Vous vous rendez compte que ces hommes, ces femmes, ces enfants ont entendu un miracle impressionnant, très impressionnant. Dieu qui leur parle comme je vous parle en ce moment. Mais avec une telle puissance, une telle force que ils sont terrifiés. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent à Moïse, si Dieu continue à nous parler comme ça, eh bien, nous allons tous mourir de peur. Donc, peut-être qu'il faudrait mieux, finalement, que Dieu s'adresse à toi, paisiblement, tranquillement, et que tu nous rapportes ce qu'il t'a dit. Parce que nous n'allons pas tenir à entendre la voix de Dieu. Et Dieu dit à Moïse, ils ont raison. C'est tout à fait raisonnable. Ils vont avoir tellement peur que je te prends comme intermédiaire. Mais c'est très joli parce que vous savez, des gens dans la foule qui disent à Moïse, non, c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça, on va tous mourir. Il va nous tuer, il va s'énerver, il va y avoir un problème, regarde ce qu'il a fait avec les Égyptiens, non. Et puis, cette colonne de nuée qui nous guide depuis 3 mois, enfin, c'est quand même sidérant. Vous avez ce peuple-là, pendant 40 ans, va assister à des miracles quotidiens. Il va avoir de la nourriture tous les matins. Il va avoir une tornade tous les jours et toutes les heures. Alors vous savez, une telle mémoire dans un peuple, ça ne s'oublie pas. Et tous les exégètes rationalistes qui vous disent « Tout ça, ça a été complètement inventé, il n'y a eu aucun miracle dans l'Ancien Testament », eh bien c'est de la blague. C'est gravement méprisant. Tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. Et il précise que Dieu dit, comment dire, je suis un Dieu jaloux. Et dans le catéchisme, comment dire, du chanoine Quinet, il nous est dit dans la 45e leçon, comment connaissez-vous d'abord la volonté de Dieu ? Question 288 de ma version. Je connais d'abord la volonté de Dieu par les 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse sur le mont Sinaï. C'est ce que l'on appelle la loi mosaïque ou la loi de crainte. Alors c'est tellement négatif qu'on dit « mais non, il ne faut pas parler de ça, c'est mal le présenter, comment vous pouvez dire ça ?» parce que Dieu ne peut pas être comment dire, faire peur. Eh bien, pourtant, n'est-ce pas, les commandements de Dieu nous ont été donnés et les voilà. Un seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement. Donc on ne peut pas être syncrétiste. On ne peut pas dire à la fois que Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et que c'est les dieux hindous. C'est faux. Un des deux est faux. On ne peut pas dire non plus que... Dieu dit que Jésus est son Fils éternel et qu'il est Dieu et que Mahomet dise « il n'est pas Dieu ». Le Dieu qui dit que Jésus est son Fils et qu'il est Trinité, qu'il est un Père qui aime un Fils, n'est pas celui qui a parlé à Mahomet puisqu'il lui dit qu'il n'a pas de Fils et que Jésus n'est pas son Fils. Alors, nous avons la même histoire biblique, mais nous n'avons pas la même parole de Dieu. Et donc, si nous voulons progresser en toute amitié, et en bonne entente et en toute franchise avec des musulmans, il faut parler de la divinité de Jésus. Pour les musulmans, Jésus est un prophète, qui doit venir au temps de l'antéchrist, au temps de l'envoyé de Satan, qui va vouloir dominer le monde, et c'est le prophète Jésus qui va revenir pour le vaincre. Vous voyez le mélange entre la révélation chrétienne et les ajouts musulmans, et les retraits musulmans. Eh bien, au nom du premier commandement, il nous faut honnêtement faire un dialogue interreligieux authentique, c'est-à-dire où est la vraie religion. Nos religions ne sont pas compatibles sur 20%, 50%, 90% pour certaines religions. Il nous faut être en plein accord et arriver à une foi pleine et entière. Vous voyez ? Et donc, chaque religion a des intuitions, mais il n'y en a qu'une qui ait pour origine le vrai Dieu. Dieu ne peut pas se contredire. Un jour, j'avais discuté avec une dame qui me dit « Mais Mahomet est un prophète quand même. » Mais non, parce qu'un prophète, c'est quelqu'un qui parle au nom de Dieu. Donc, il n'est pas prophète, puisqu'il dit que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Et il dit aussi que Jésus n'est pas mort sur la croix et qu'il a été substitué par un ange. Ce qui est totalement contraire. Donc si nous voulons être virils et honnête et franc et vivre véritablement en paix et en bonne entente avec les musulmans, il faut que lorsqu'on parle religion, on parle franchement. Et c'est une des causes, à mon avis, des grandes incompréhensions actuelles entre l'Occident et l'Orient. Parce que on n'est pas cohérent. Or, Dieu nous demande cette cohérence. Il la demande au peuple hébreu et il lui dit « Un seul Dieu, tu adoreras et aimeras parfaitement. » Alors on nous dit « Les enfants d'Abraham, on est tous enfants d'Abraham. » Eh bien, non. On est historiquement enfants d'Abraham, mais le Dieu d'Abraham a parlé. Et on ne peut pas faire dire au Dieu d'Abraham une chose contraire à une autre. Dieu ne s'amuse pas à respecter les cultures et les histoires culturelles des peuples. Dieu veut la vérité et qu'elle soit transmise à chaque peuple. S'il y a des Gaulois chrétiens, alors que nous étions à égorger des vierges au solstice d'hiver, parce que les druides coupaient pas seulement du gui, ils coupaient aussi des gorges. Vous savez, comment il s'appelle c'est Panoramis, le druide dans Astérix. Ben, il est toujours présenté comme gentil en faisant de la potion, mais normalement, il doit faire des sacrifices humains, hein, comme tous les druides. D'ailleurs, ceux qui s'institulent druides actuellement, ben, j'attends qu'ils tuent quelqu'un quand même. Enfin, s'ils sont logiques, c'est leur religion. Ben, ça fait plaisir à la lune, quand même. Pourquoi ils amoindrissent la religion qu'ils ont redécouvert? Pourquoi ils ont peur d'aller en prison? Parce que ça ne le fait pas. Bon. Un seul Dieu tu adoreras, aimeras parfaitement. Mais comme je vous l'ai déjà dit, je pense, lorsque les hindous adorent Ganesh, c'est parce que pour eux, la providence divine est dans l'éléphant. Et donc c'est une intuition vraie. Ensuite, elle est fausse parce qu'une créature ne peut pas être le Tout-Puissant. Dieu en vain, tu ne jureras ni autre chose pareillement. On n'invoque pas le nom de Dieu et l'autorité divine pour mentir. Alors, par crainte révérentielle, on arrive à ne plus faire aucun serment. On va tirer une parole du Christ là-dessus. C'est le deuxième commandement, c'est-à-dire inutilement, en vain, pour se moquer, ou par rouerie, n'est-ce pas, par ruse. Mais on peut prêter serment. Seulement, on doit prêter serment pour des choses graves et sérieuses. Par exemple, un témoignage en droit pénal. Vous remarquerez qu'on ne prête pas serment pour des problèmes de loyer impayé ou de problèmes de propriété. Mais par contre, quand il s'agit de crimes et de délits, on peut prêter serment. Troisième commandement, tu sanctifieras le jour du Seigneur. Dans la version catholique, les dimanches tu garderas en servant Dieu dévotement. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Et qu'est-ce que c'est que cette sanctification du jour du Seigneur? Sinon, vous voyez, comme c'est historique dans ce qu'ont entendu le peuple hébreu, je le dis et on verra plus tard, à d'autres moments, en détail les 10 commandements. Mais j'insiste quand même un peu parce que ça va façonner l'âme d'Israël. C'est un rappel de la loi naturelle. Déjà les hommes savaient qu'il fallait prier. Déjà les hommes savaient qu'il ne fallait pas se moquer de Dieu. Et déjà les hommes savaient qu'il fallait prier ensemble. Parce que sanctifier le jour du Seigneur, c'est tout le monde ensemble. Il y a la prière individuelle et la prière collective. Et donc, lorsque la Vierge Marie pleure à la salette en disant « Vous allez travailler le dimanche et vous n'allez pas sanctifier le jour du Seigneur », c'est parce que c'est grave, ça tue la société de travailler tous les jours. Et nous-mêmes, nous devons rentrer en nous-mêmes pour bien éviter d'avoir un métier où on travaille le dimanche, ou alors à ce moment-là, se réserver un jour de paix Mais vous comprenez bien que la société elle-même et l'autorité publique doit empêcher et limiter les nécessités d'un travail le dimanche, comme la santé, la sécurité, les pompiers, quelques nourritures, mais tout ne doit pas être ouvert dans la nourriture. Eh bien, voyez-vous, ce sont des lois contre nature. Le fait qu'on ouvre un magasin de bricolage le dimanche, non. Mais j'entrerai dans les détails plus tard, mais si vous voulez, mais attention, vous allez voir un peu ce que c'est que de respecter le jour du Seigneur. Le repos. Dieu vous a donné 6 jours pour travailler, lui-même s'est reposé le 7e jour. Vous devez vous reposer le 7e jour. C'était le samedi pour les Hébreux. Le Shabbat, c'est le repos, c'est pas le samedi Shabbat, c'est repos. On doit se reposer ensemble pour prier ensemble, réfléchir ensemble et se souvenir de sa destinée immortelle et spirituelle. Voilà l'origine de ce repos. Alors, je continue et vous allez voir comment ça va se passer. Tu honoreras ton père et ta mère afin de vivre longuement. Il y a une promesse particulière. Je crois que c'est Saint Paul qui la relève. C'est un des commandements où il y a une récompense. Alors vous allez me dire, oui, mais enfin, il y a des enfants qui sont très bien compliqués leurs parents et qui sont morts d'un cancer à 50 ans, c'est pas normal. Oui, en effet, c'est pas normal. Normalement, quand on s'occupe très très bien de ses parents, on doit vivre vieux. Je ne plaisante pas. Tu honoreras ton père et ta mère, car tu honoreras la source de ta vie, de ton existence. Et je vous développerai plus tard l'importance, et d'ailleurs la nature est tellement forte que même des parents mauvais sont aimés quelque part par leurs enfants. Et Dieu nous demande d'avoir une pitié particulière pour des parents pécheurs, une miséricorde particulière pour nos parents mauvais, méchants. Et on ne peut pas s'en empêcher. Ensuite, il faut s'en protéger, attention, il ne faut pas... Tu ne tueras pas. Et vous verrez que c'est tu ne tueras pas l'innocent. Mais on va le voir plus tard. Tu ne feras pas d'impureté. Dans la vieille présentation française, luxurieux point ne sera de corps ni de consentement. Alors là, c'est difficile. Qu'est-ce qui est difficile? Eh bien, notre sexualité est ordonnée au couple. Notre sexualité est ordonnée à l'ouverture à la vie. Ce qui fait que deux vieux hommes ou deux vieilles femmes n'ont pas plus le droit de se marier que deux jeunes femmes ou deux jeunes hommes. Oui, mais on sera chaste. C'est pas le problème. Le mariage, c'est de pouvoir poser l'acte conjugal. Ah oui, mais enfin, à 85 ans, il ne risque pas d'y avoir des enfants. Le corps est fatigué. L'âge a fait son œuvre. L'acte sexuel reste un acte ouvert à la vie. La vieillesse, la sclérose des organes sexuels est une défaillance du corps humain. Mais l'acte sexuel doit rester naturel entre l'homme et la femme. Et alors, un vieil homme et une vieille femme, alors ils peuvent se marier? Oui, mais enfin, est-ce qu'ils peuvent poser? On ne va pas aller vérifier. Mais on présume l'acte naturel. Et c'est une loi profonde et importante. Parce que la sexualité doit être, si vous voulez, dans un amour humain, mais aussi dans la nature humaine. Nous sommes tous nés d'un homme et d'une femme, et tous les enfants qu'on va aller acheter et payer, en général à des femmes pauvres dans des pays pauvres, eh bien il a fallu une cellule d'homme et une cellule de femme, de toute façon. quelles que soient les tricheries possibles et imaginables, ça sera toujours un homme et une femme. Et Dieu nous demande de préserver cette vérité. Sixième commandement. Septième commandement, tu ne voleras pas. Tu ne désireras pas le bien particulier des autres. Huitième commandement, tu ne mentiras pas. Et je passe vite. Le mensonge, c'est de dire quelque chose de faux pour tromper une personne et l'induire en erreur et lui nuire d'une certaine manière. Lui nuire sur la relation humaine de confiance. Mais si je vous dis qu'il y a un énorme crocodile dans la cuisine, que j'ai eu du mal à le maîtriser, que j'ai mis des élastiques et non pas une chaîne, je peux en rajouter, personne ne va me croire. Et donc je ne vous mens pas. Je dis quelque chose de faux, mais vous ne le croyez pas. C'est la raison pour laquelle il y a des. Nous verrons quand nous étudierons le mensonge, les restrictions mentales des jésuites que Pascal détestait particulièrement. Comme par exemple, celle qui a perduré. Est-ce que je peux voir monsieur le prince ou monseigneur ou le roi? Non, il est en réunion. Mais c'est encore vrai actuellement. Vous voulez voir le curé? Anne-Hélène vous dit non, il est en réunion ou il est en rendez-vous. En fait, il est ailleurs, il fait autre chose et tout le monde sait qu'on ne peut pas tout de suite voir quelqu'un immédiatement. On peut dire quelque chose de faux et la personne sait que comprend ce que ça veut dire. C'est une convention humaine qui fait qu'on n'est pas vraiment dans le mensonge. Mais maintenant, pour revenir au peuple hébreu qui écoute la voix de Dieu, ne pas mentir, c'est de ne pas dire des choses fausses, de ne pas être hypocrite, de ne pas être faux. Neuvième commandement, tu n'auras pas de désir impur volontaire. Le sixième commandement, c'était les actes. Et le neuvième commandement, ce sont les pensées. Dixième commandement, tu ne désireras pas injustement le bien des autres. Et au pied du mont Sinaï, c'était l'âne, la femme, l'âne et la femme, hein, vous voyez, c'est un peu patriarcal, hein, ça rigole pas. Et en effet, Dieu ne veut pas, comme les hommes sont durs, et que pour eux, leur femme est leur propriété, Dieu leur parle selon ce qu'ils comprennent. Mais cette convoitise, donc cette jalousie, c'est le septième commandement en pensée. Septième commandement, je vole. Dixième commandement, je désire le bien des autres. Je suis jaloux, je suis triste du bien des autres. Alors, Israël jure solennellement de garder les ordonnances du Seigneur. Mais sachez que Moïse donc va monter sur la montagne et Dieu lui donne le décalogue écrit sur deux tables de pierre appelées les tables de la loi. Ces tables ont vraiment existé. Elles ont vraiment été gravées par Dieu, par miracle. Et ces deux tables de la loi actuellement sont dans un coffre en bois plaqué or, quelque part dans une caverne de Terre Sainte. Et vous avez Steven Spielberg, qui est un cinéaste américain, juif, qui a fait un film là-dessus. Il y a d'autres films aussi sur le fait de rechercher l'Arche d'Alliance. C'est Jérémie qui l'a caché. Ils ont fait des tours et des tours et des tours dans la montagne. Quand ils ont trouvé une grotte, ils ont mis l'Arche d'Alliance. Jérémie a fait ébouler des pierres devant l'entrée de la grotte. Et ils sont repartis, ils ont fait des tours et des tours et des tours et des tours, et plus personne ne savait où était la grotte, ni quoi que ce soit, et on ne l'a jamais retrouvée. C'est la raison pour laquelle, du prophète Jérémie jusqu'à la profanation du temple par les armées de Titus et de Vespasien, eh bien, il n'y avait rien dans le temple. Dans le Saint des Saints, il n'y avait plus l'Arche d'Alliance. J'anticipe, mais vous voyez, on a déjà un des contenus de l'Arche d'Alliance. Il fit aussi connaître ses volontés relativement à construire un tabernacle, une tente, où il mettrait dans un coffre l'Arche d'Alliance, les tables de la loi, pour signifier la parole de Dieu. Alors, Moïse est tout content, il redescend de la montagne, mais il reste 40 jours sans manger ni boire. À nouveau, je fais de la peine aux exégètes modernes, on va dire, oh non, il avait pris une gourde et il avait des petits morceaux de pain. Non. Moïse n'a ni mangé ni bu pendant 40 jours. Et comme il était monté et qu'il y avait un ouragan de feu, à la fin, les Hébreux, au bout de tous ces jours, disent, il est mort. Dieu l'a tué. On avait bien raison d'avoir peur de Dieu. Et Moïse redescend. Mais entre-temps, les Hébreux disent à Aaron, tu vois bien que ton frère est mort. Donc, voilà, on n'est pas sorti d'Égypte pour rien. Rassure-nous. Fais-nous un dieu dont on ait moins peur que le dieu qui a tué Moïse. Et alors, Aaron est troublé. Et tous les bijoux que les Égyptiens leur avaient donnés pour dire aux Hébreux, partez, tenez, comme ça, ça sera pour le voyage. Ils mettent l'or. Aaron fait fondre l'or et fait le dieu Apis, le dieu égyptien Apis, de la prospérité et des récoltes, n'est-ce pas? Des troupeaux, de vaches. Et là, Aaron dit, adorez votre dieu. Et les gens font la fête et tout ça, et c'est la folie. Et Dieu dit à Moïse, redescends vite parce que ils avaient promis fidélité et ils sont déjà adoré une idole, une image d'un faux dieu. Donc Moïse descend. Quand il voit le spectacle, il jette les deux stèles qui se cassent. Et là, vous avez une solidarité tribale. La tribu de Moïse, c'est la tribu de Lévi. Et vous avez des hommes de la tribu de Lévi qui disent à Moïse, alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va punir ceux qui dansaient autour du veau d'or. Ils sortent des épées et ils passent à travers le camp, et ceux qui adorent le veau d'or encore, ou qui sont à moitié ivres, qui ont bu, qui machin, sont trucidés par les enfants de Lévi. Lévi, c'est un des 12 enfants de Jacob Israël. Et là, vous avez donc la tribu de Lévi qui massacre toute une partie du peuple hébreu. Je crois qu'il y a plus de 10 000 tués.